Écoute dans la nuit. Chantal Bally, bonsoir à tous, bienvenue et merci de partager cette soirée avec nous. Pour nous rejoindre et entrer dans le dialogue, le téléphone 01 56 56 44 00. Notre invité ce soir est Philippe Osnay, pasteur, auteur, ancien aumônier de prison, directeur de l'association Osez en parler. Il exerce un ministère itinérant, particulièrement auprès des personnes en souffrance. Pasteur Philippe Osnay, bonsoir.
Bonsoir Chantal.
Alors, il va être question ce soir de la guérison intérieure de nos mécanismes de défense.
Oui, ça peut paraître être du charabia pour certaines personnes qui nous écoutent.
Voilà, nous allons voir ce que sont ces mécanismes de défense, à quoi ils servent, comment ils se mettent en place et que peut-on faire pour en guérir ou en être libéré. Alors, vous nous dites déjà, Pasteur Philippe Osnay, vous me disiez qu'il y en a de bons et de mauvais de mécanismes de défense. Alors, expliquez-nous en donnant des exemples.
Alors, par exemple, si je suis dans le métro et qu'il y a beaucoup de monde et puis que quelqu'un me marche sur le pied et j'ai une forte douleur, donc je crie. Et je fais « Ah !» Bon, alors ça fait partie des mécanismes de défense, même si j'ai pas mal, admettons.
Oui, c'est pour prévenir.
Pour prévenir, vous êtes en train de faire quelque chose là qui peut
n'aller pas plus loin.
Nuisible. Voilà. Alors, ça c'est un exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Beaucoup d'autres. Quand on a peur, on crie.
Oui.
Hein, on crie à cause de la peur. Mais c'est une manière aussi de nous protéger. Alors, on verra pendant cette émission donc quels sont tous les mécanismes
différents,
de défense.
Oui.
Il y en a des bons. Par exemple, Chantal, tous les soirs, moi, je ferme à clé la porte de l'appartement. Je pense que vous le faites aussi.
Oui, c'est un mécanisme de défense.
Alors, oui, bien sûr.
Et bon.
C'est pas parce que je suis paranoïaque et que j'ai peur des voleurs et que toute la nuit je vais
rêver. Prudence.
Je vais faire des courses, je ferme les portes-fenêtres de mon balcon.
Oui.
Hein, je dirais pas à quel étage je suis, mais un étage où si on met une échelle.
Oui, c'est ça. C'est
très facilement.
On peut monter
et puis entrer
dans l'appartement.
Donc je ferme et puis ensuite je sors. Et quand je rentre, je rouvre mes portes-fenêtres.
Voilà.
Alors, tout ça fait partie des bons mécanismes de défense. Par exemple, j'ai une infection physiquement, hein, j'ai une maladie. La fièvre apparaît. Donc ça fait partie d'un mécanisme de défense du corps.
Mmh.
En fait, heureusement qu'il y a la fièvre.
Mais oui, c'est un indice qui...
Sinon, je ne saurais pas que j'ai une infection ou une maladie.
Mmh.
Et le plus pernicieux, ce sont les maladies qui s'installent sans provoquer la fièvre. Par exemple, le cancer.
Mmh.
Hein, il peut être là depuis longtemps. On n'a pas pu le détecter parce qu'il n'y avait pas la fièvre. Hein. Mmh. Alors donc dans notre vie, il y a des bons et des mauvais mécanismes de défense. Alors,
oui.
Un mauvais mécanisme de défense, par exemple, c'est si une fois je suis monté dans un ascenseur et puis cet ascenseur est tombé en panne pendant une heure. J'ai été dans le noir dans cet ascenseur.
Donc, j'ai eu c'est une sensation désagréable, en tout cas.
C'est terrible. Alors, je suis délivré au bout d'une heure, à force d'appeler, mais je suis traumatisé. Et le résultat, c'est quoi? Le mécanisme de défense que je vais installer, c'est quoi? C'est je ne veux plus jamais de ma vie monter dans un ascenseur.
Oui.
Voilà. Alors, je vais me payer cet étage à pied. Je ne veux plus monter dans un ascenseur.
Oui, alors là, il faut faire quelque chose pour libérer de ça. Oui.
Il faut faire quelque chose. Par exemple, j'ai traité une personne. Ça peut devenir ensuite une phobie. Hein.
Oui.
J'ai traité une personne qui avait ce problème. Et ça s'est fait en une demi-heure.
Ah oui.
Et en une demi-heure, ça a été mieux. Je lui ai expliqué comment faire.
Mmh.
Et je lui ai dit, la prochaine fois, vous allez monter dans l'ascenseur. C'était une chrétienne. Je lui ai dit, mais vous allez dire, merci Seigneur, tu montes avec moi dans cet ascenseur. Donc, je suis en sécurité.
Ah oui.
Elle s'est détendue, elle est montée dans l'ascenseur et elle s'est mise dans la présence de Dieu. Et du coup, elle a passé le cap.
Ah voilà.
Et... elle a toujours une petite angoisse quand elle monte dans un ascenseur.
Elle monte avec le Seigneur maintenant.
Oui, voilà, elle monte avec le Seigneur. Voilà. Alors, on a tous donc des mécanismes de défense heureux,
mm-hmm.
Mais certains d'entre eux ne sont pas heureux et nous empêchent de vivre par la suite.
Hein. Admettons, ça bloque notre vie.
J'ai mangé trop de chocolat. Hein, et puis,
j'ai une crise de foie.
Crise de foie. Et après, c'est fini. Je veux plus jamais manger. Non, c'était l'excès.
Ben oui.
Qui était défavorable. J'ai mangé trop de chocolat.
Il peut y avoir un dégoût.
Mais le chocolat en lui-même n'est pas nocif.
Ben oui.
Alors, il y a dans nos vies, en chacun de nous, ces bons mécanismes de défense et ces mauvais mécanismes de défense.
Voilà.
J'ai un bon mécanisme de défense, c'est mon chapeau, Chantal.
Oui, c'est ça.
Vous parliez, c'est vous, Chantal, qui me parliez d'un palmier tout à l'heure.
Oui, parce qu'il y avait un palmier, par
vous
exemple.
Aimeriez faire une émission sous un palmier. Et on aurait pu mettre, d'ailleurs, une couche de sable et des transats. Ça aurait été super de faire une émission comme ça. Alors donc, mon chapeau, je reviens à mon chapeau.
Hein. Oui, il mais mon protège chapeau, quand même. Hein,
mais oui, parce que je porte des lunettes.
Oui.
Alors, mon chapeau, il est large et je l'ai imperméabilisé avec une bombe qu'on achète dans le commerce.
Oui.
Et donc, j'allais dire que c'est un mini parapluie.
Ben voilà.
Hein.
Alors, pratique.
C'est une bonne défense contre la pluie.
Oui.
Et nous pouvons avoir ainsi, physiquement, psychiquement, spirituellement également,
oui, des moyens
certains
de défense.
Mécanismes de défense, des moyens de défense. Mmh. Qui sont bons, qui nous procurent bien la défense espérée.
Moyen de défense, bon, mais mécanisme, ça se met en place, le mécanisme.
Alors c'est ça, un mécanisme, c'est quelque chose qui va se déclencher.
Qu'est-ce que c'est en fait, oui.
Ben, ça va se déclencher automatiquement.
Oui.
À un moment donné, et ça peut très bien être inconscient.
Ah oui.
J'ai très bien pu avoir un traumatisme dans l'enfance, dont j'ai oublié totalement les souvenirs parce que je les ai refoulés dans mon monde inconscient.
Oui.
Et chaque fois que je me retrouve dans une situation donnée, plus tard, quand je suis adulte, il y a blocage. J'ai mal au ventre, j'ai envie de fuir, je ne sais même pas pourquoi.
C'est un mécanisme qui s'est mis en place et qui a été refoulé.
Il a été refoulé et par contre il est actif. Nous savons très bien que les rêves la nuit sont un moyen pour l'être humain, eh bien, d'évacuer certaines choses vécues dans la journée.
Oui.
Hein, d'ailleurs, souvent, on rêve d'une chose qu'on a vécue dans la journée précédente.
Oui.
Hein. Alors, le rêve est un moyen d'évacuer et en quelque sorte de se défendre. Et alors, donc, il y a beaucoup de mécanismes de défense dont certains sont, je dirais, pas trop conséquents, dommageables, négatifs dans nos vies, mais certains autres peuvent l'être énormément dans le domaine de la sexualité, s'il y a eu viol, etc., etc.
Oui. C'est finalement une stratégie de survie quelque part au moment où au moment premier.
C'est vrai, donc on ne peut pas incriminer un mauvais mécanisme de défense à partir du moment où il s'est mis en place, parce qu'il a été peut-être à l'époque le seul moyen de survie. Il est donc bon,
il a été bon
sur le moment. Le problème, c'est quand il va se répéter indéfiniment pendant des années, et empoisonner notre vie psychique.
Et quand on parle de mécanisme de défense, souvent c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est devenu un mécanisme inconscient qui revient, une répétition mal appropriée pour la situation présente.
Oui, et qui masque nos vrais besoins. Derrière un mécanisme de défense, il y a souvent une blessure, un traumatisme qui n'a pas été guéri. Alors nous érigeons ce mécanisme de défense et nous faisons bien, mais la solution à partir du moment où nous voyons le pourquoi de ce mécanisme de défense, parce que nous pouvons très bien ne pas le voir,
bien sûr.
Par contre les autres peuvent l'apercevoir, les autres. Oui. Alors à partir du moment où nous nous apercevons de notre vrai problème qui se cache derrière, il nous appartient à nous de tout faire pour solutionner ce problème. On en parlera pendant l'émission.
Oui. Alors, donc, c'est un moyen de survie sur l'instant. Donc positif, mais ensuite il faut réviser, il faut revoir cela.
Oui.
Mais si c'est inconscient, c'est pas
pas facile à détecter. Discerner, à détecter.
Oui, oui, oui.
Et c'est là où il nous faut quelquefois écouter les autres qui peuvent avec bienveillance nous dire mais là tu es bloqué là.
Oui.
Dès qu'on te parle de lire des livres par exemple.
Oui.
Hein, dès qu'on te parle de sujets intellectuels. On te parle de cultiver ta vie intellectuelle. Hop, tu as un blocage,
oui.
Une révolte.
Ça veut dire quelque chose.
Oui, parce que dans l'enfance de ce garçon, il y a eu un professeur qui, à l'époque, l'a traumatisé, l'a traité de patate constamment.
Donc, dès qu'il est question d'apprendre ou...
Et du coup, ce garçon, sur le moment, n'a plus cru en lui-même. Il a cru vraiment qu'il était un incapable. Mm. Alors que le professeur aurait peut-être pu prendre du temps après le cours,
pour expliquer.
Quelques minutes, pour expliquer, peut-être dire à l'élève, écoute, si tu peux venir 5 minutes avant, pendant plusieurs semaines, tout ça, je te montrerai, ou si tu veux, on en discutera 5 minutes.
Ça aurait de redonner confiance.
À la salle des profs, viens me voir. Mmh. Voilà, de manière à redonner confiance aux jeunes. Alors, c'est typique, les personnes qui ne veulent pas lire, qui n'aiment pas lire, qui sont bloqués dès qu'on parle de lecture, de formation, de cours. Mmh. Ce sont quelquefois des personnes qui ont été traumatisées au niveau intellectuel et il ne faut plus y revenir. Il y a un traumatisme. Alors le mécanisme de défense, c'est quoi? C'est, oh, bah, de toute manière, la vie me forme suffisamment. Moi, j'apprends dans la pratique, j'ai pas besoin des bouquins.
Ah oui, d'accord.
Bon, bah, là, il y a quelque chose à traiter.
Mmh. Ça c'est un signe, ça. Enfin, c'est un signe.
Alors, il y a le côté néfaste, c'est que cette personne ne lira jamais de livres, ne va pas s'intéresser à la vie autrement que par l'aspect pratique.
Oui, oui.
Mais tout ce qui est théorique, elle est bloquée.
Donc, il y a tout un aspect important de sa personnalité qui va être en jachère, on peut dire.
Oui, c'est un aspect figé.
Oui.
Une immaturité s'installe, du moins un manque de progression s'installe. Et il y a blocage.
Une fixation.
Oui, oui. Tout est figé. Mmh. C'est comme un produit congelé.
Ah oui.
On peut pas le cuisiner. Il faut
il
le décongeler.
Est pas consommable.
Et on le décongèle par petites touches. Comment un four micro-ondes ne décongèle pas un gros morceau de viande comme ça en une fois.
Oui.
Il envoie des ondes, puis il n'y a plus rien. La viande se repose, et puis à nouveau, il envoie des ondes, et il y a tout un tas, là, de paliers qu'il faut respecter.
Voilà, donc c'est un peu ça quand on veut sortir d'une situation de mécanisme de défense.
Voilà, une situation néfaste, dont on
voit
que ça nous bloque. Bon, un autre exemple, on a peur du groupe, par exemple. Dès qu'on est dans un groupe, on panique.
Oui,
on panique.
Ça veut dire quoi, ça?
Là, y a un blocage, souvent un manque de confiance en soi-même, une honte par rapport à soi-même, mm-hmm. qui vient du passé,
oui.
De l'enfance, vraisemblablement.
Oui, c'est ça.
Et dès qu'on se trouve en compagnie d'autres qui, eux, n'ont pas cette honte, qui, eux, libèrent facilement leurs paroles, et donc arrivent à avoir une vie de groupe, eh bien, on est bloqué. On a envie de partir parce que ça nous fait trop peur. Ah. Ça nous montre trop ce dont on est incapable.
Ah oui, c'est ça. Il y a une peur. Il y a la peur derrière cela, souvent.
Il y a la peur.
La peur,
beaucoup
oui.
de mécanismes de défense sont liés à la peur. Mm-hmm. Parce qu'on ne sait pas comment traiter une chose.
Donc
alors,
on fuit.
On met un paravent.
On met un paravent.
Alors, il y a un bon exemple, c'est la tortue.
Oui.
La tortue, elle rentre sa tête
dans sa coquille,
et ses pattes.
Dans sa...
Et elle ne bouge plus. Vous aurez beau la transporter, la secouer.
Oui.
Elle ne bouge plus.
Elle ne bouge plus, oui.
Mécanisme de défense, elle rentre sa tête et ses pattes. Voilà. Et dans son cas, c'est bien.
Oui, mais c'est bon, c'est un bon mécanisme.
C'est sa personnalité, c'est son identité.
Oui, oui, oui.
Voilà. Alors nous, on peut faire pareil par rapport à la vie, nous, les êtres humains.
Alors là, il n'y a rien à faire si on est bloqué comme ça.
Il n'y a rien à faire si...
Provisoirement, quand une personne est comme ça devant soi... Elle ne pas répondre à quoi que ce soit.
Oui, et elle est susceptible, Chantal. Elle devient susceptible parce que si nous commençons trop tôt à gratter un petit peu le bord de son problème, elle va mal le prendre. Elle va le prendre pour un abus.
Ah,
en quelque sorte, il y a comme un effet rebond de l'ancien traumatisme.
Oui, oui.
Et il y a un ennemi qui s'approche.
Ah oui.
Donc, alors quand on voit qu'on s'occupe d'une personne pour l'aider, oui, parce qu'on discerne qu'elle a un problème psychologique là, et qu'elle elle devient agressive, faut plus y revenir.
Ah oui.
C'est pas mûr, c'est pas prêt.
Ah, qu'est-ce qu'il faut faire alors?
Souffrir en silence,
souffrir,
et essayer de contourner la chose.
Prier.
En détendant la personne, par exemple, et en lui disant, bah, après tout, c'est pas grave, hein, voilà, puis on passe à autre chose. Mais le problème n'est pas traité. Mmh. Alors, on a en nous des problèmes qui, parfois, Chantal, ne sont plus traités depuis 30 ou 40 ans. Et les, certains seniors sont encore des petits-enfants dans certains domaines de leur vie. Et il ne faut pas s'étonner s'il y a blocage, s'il y a rejet de leur part. Quand on touche un point sensible, derrière ce mécanisme de défense.
Ah oui.
C'est, pour elle, c'est insupportable. On a osé passer au travers du filtre, on a contourné le mécanisme de défense, et elles le prennent comme une attaque.
Ah oui.
Alors que nous, on n'est pas en train d'attaquer, mais de mettre la lumière sur quelque chose qui a besoin d'être changé.
Alors finalement, dans ces cas-là, comme on ne peut pas humainement approcher la personne, il vaut mieux passer par le Seigneur pour que lui fasse le travail, parce qu'il sait, il connaît la personne.
Oui, un chrétien a cette arme de la prière,
oui,
Chantal.
Bien sûr.
Et c'est vrai que l'intercession, si c'est un gros blocage, hein, bon, ben, on va le porter dans la prière.
Bien
et puis, et surtout, on va comprendre la personne.
On va comprendre.
Se dire, là, elle a reçu quelque chose en pleine figure, elle souffre.
Oui.
Et on va savoir patienter.
Oui, c'est pas le moment, parce que sa réaction est pas,
Oui. Et puis, est-ce que la personne veut changer? Alors, c'est ça le problème, si Chantal, à force, si pendant 40 ans, je me suis toujours protégé, comme la tortue, en rentrant mes pattes et ma tête, ben, je ne sais faire que cela. Lorsque je réagis face à une blessure ou à un événement,
c'est assez dramatique,
je ne sais faire que cela. Et je l'ai intégré, ça, comme étant ma normalité.
Oui.
Et je pense que c'est normal de réagir comme ça. Mais par contre, je vais blesser les autres. Et les autres peuvent voir, par contre, ma blessure, je l'ai dit tout à l'heure.
Oui, à travers les réactions.
Alors, tout ça, c'est pas évident. Et si la personne ne veut pas changer, c'est peut-être qu'elle a peur de ce qu'elle va mettre à la place. C'est bien beau de dire à une personne, tu es dur, tu portes un masque, tu es susceptible. Ben, ok, mais... Donnons-lui aussi le moyen, la recette
pour
changer tout ça. Si on ne lui donne pas, mais on est en train de lancer des cailloux à une tortue.
Ben oui, on lui fait
et puis ensuite, c'est des pavés. Et on va casser la carapace de la tortue et elle va mourir.
Alors, voilà. Bah, écoutez, on va voir tout cela. J'appelle nos auditeurs qui sont aussi invités à nous rejoindre dans cette émission au 01 56 56 44 00. Si ces mécanismes, par les mécanismes de défense, ça vous parle, eh bien, n'hésitez pas à nous en parler. Voilà. Et nous écoutons tout de suite, eh bien, ce sont les musiciens du Louvre Grenoble. Voilà, c'est écrit ainsi sur mon... Je ne les connais pas, mais c'est un credo de Et in unum dominum de Bach.
Radio Notre-Dame.
C'était donc un extrait de la messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach, Credo et In Unum Dominum, par les musiciens du Louvre Grenoble. Ce soir, eh bien, nous parlons des mécanismes de défense, hein, la guérison intérieure de nos mécanismes de défense. Vous nous avez dit, pasteur Philippe Osnet, qu'il y avait de bons mécanismes de défense, hein, pour se protéger, mais il y en a d'autres qui ne sont pas bons parce qu'ils ont été peut-être bons, c'était une stratégie de survie au moment donné, mais on en a fait finalement un absolu, voilà, et ça se répète, et c'est plus approprié du tout, et ça nous empêche de vivre finalement.
Hein. Et finalement, ça s'intègre dans notre vie,
oui.
Dans notre structure,
oui.
De vie, à un point que nous ne les voyons plus, ils s'intègrent à un point où nous ne pouvons plus nous-mêmes les apercevoir.
Oui, oui, oui.
Et c'est là où il y a quelquefois une impossibilité de changer. Quand quelqu'un nous dit, mais t'as vu la manière dont tu m'as parlé, dont tu m'as traité,
oui.
Ben non, comme nous ne voyons pas.
Ah oui, oui, il y a un aveuglement.
Le problème
quelque part.
Que nous avons, il y a un aveuglement.
Mm-hmm.
Nous ne voyons pas le problème que nous avons, ben nous allons rabrouiller cette personne.
Bien sûr.
En lui disant, ben d'abord, mêle-toi de tes oignons et passe ton chemin. Basta, terminé.
Oui, oui, oui.
Arrête avec tous tes machins là que tu me mets sur la figure.
Mm-hmm.
Voilà. Alors, bon, sur le moment, ça fait mal. Et c'est là qu'il faut réfléchir et se dire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel est le blocage de cette personne? Et il faut une certaine compassion, ça s'apprend.
Ben oui, c'est ça. Là, c'est l'amour hein, qui...
C'est l'amour qui va vaincre. Il peut y avoir une projection d'amertume. C'est comme un bouton, hein,
ah, oui.
Un bouton avec du pus à l'intérieur.
Oui.
On prend une épingle, quand le bouton est mûr, on prend une épingle et on va la passer à la flamme. On faisait ça autrefois,
oui.
Maintenant moins.
Oui.
Et puis on va percer
oui.
Le bouton et le pus sort.
Oui.
Alors quelquefois, quand on... discerne chez une personne des mécanismes de défense qui ne sont pas bons et qu'on, en quelque sorte, on pique avec cette épingle sur le bouton rempli de pus, bah, y a quoi qui sort? Bah, de l'amertume,
ah, oui.
Du rejet, de la colère,
ah,
de
oui.
La violence,
mm-hmm.
De la violence. Le déni est un mécanisme de défense, on va en parler.
Oui, oui,
le
oui.
Déni, le fait de se dire, bah, non, ça n'a pas lieu, il n'y a pas de problème.
Mm-hmm. Hein? Bien sûr.
Il y a quantité d'autres...
Bien sûr. Alors justement, on va voir, vous allez nous donner des exemples de divers mécanismes de défense et puis à quoi ils correspondent, parce qu'il y en a différents qui correspondent à une force de fonctionnement différent. Enfin...
C'est vrai. Et selon les individus, leur éducation, selon leur connaissance des problèmes, elles vont élaborer des mécanismes plus ou moins structurés, plus ou moins étendus.
Oui.
Alors, tout d'abord, il y a le refoulement.
Ça, c'est bien connu.
Le refoulement.
Enfin, on en parle plus souvent, quoi, du refoulement.
Oui. Oui. C'est l'opération par laquelle une personne cherche à repousser ou à maintenir en l'état des tensions psychiques internes. C'est le renvoi, bien souvent inconscient,
oui.
Vers notre vie inconsciente, de ce qui est pénible en nous ou dans notre vécu. Donc,
ça peut être des idées.
Oui, il y a un refoulement de certaines
sentiments,
pensées, d'émotions,
oui.
De désirs désagréables, etc. Alors, malheureusement, il y aura des retours nocifs. C'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vie inconsciente, elle continue à travailler malgré nous.
Mm-hmm.
Hein, elle est mobilisée. Ça va donner le développement de rêves et de fantasmes.
Oui.
Et certaines manifestations pathologiques. Alors, moi qui m'occupe de personnes qui sont dépendantes sexuellement, quelle que soit leur identité sexuelle, j'ai pu m'apercevoir que les personnes, par exemple, les plus homophobes,
oui.
Je parle de la vraie homophobie, hein, je ne parle pas de la fausse homophobie comme on a pu entendre quelquefois, décrite par des milieux gays où dès qu'on est pour le mariage hétéro c'est qu'on est homophobe, dès qu'on se pose des questions, ça j'en parle pas.
Oui.
La vraie homophobie,
oui.
Qui est donc tout à coup le fait d'être absolument injuste, cruel et haineux envers une personne homosexuelle, bien souvent elle est le fruit d'un refoulement de pensées homosexuelles dans l'adolescence ou l'enfance de cette personne. Elle a eu des pensées comme cela, elle les a aussitôt
refoulées,
châtiées, refoulées, Et bien sûr qu'ensuite il y aura un transfert qui va se faire sur les personnes homosexuelles.
Oui, c'est un transfert en fait.
Oui. Et alors il y a un mécanisme de défense qui se met en place, c'est-à-dire une personne homosexuelle c'est sale, elle devrait jamais exister ces personnes-là, elles sont inférieures, elles sont ceci, elles sont cela.
C'est un mécanisme de défense en fait.
Oui, bien sûr.
Inconscient qui se met.
Oui, contre notre propre homosexualité intérieure.
C'est nous-mêmes, oui.
Qui est peut-être présente à 2% ou 10%. Mm-hmm. Hein, mais en fait...
On projette finalement quelque chose.
On se défend. Mm-hmm. Nous apercevons l'homosexualité librement vécue d'une personne. Ça nous paralyse parce que ça nous renvoie à notre propre homosexualité refoulée.
Ah oui.
Voilà. Alors, et donc le mécanisme de défense, c'est quoi? Bah, c'est de se mettre à torpiller les personnes homosexuelles, voire même les taper. En tout cas, les critiquer et les rejeter. Et on n'a pas le droit de le faire.
Alors ça, ça vient d'un refoulement.
Ça vient d'un refoulement. Mmh. Alors le refoulement, donc, peut être plus ou moins étendu dans le temps et en quantité.
Mmh. Hein? Alors voilà, en voilà un. Bon, refoulement, on en parle. Oui. D'autres mécanismes?
Alors la régression, c'est un deuxième mécanisme. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est... rappelons d'abord que le mécanisme de défense, c'est le moyen que nous utilisons pour nous protéger contre des effets pénibles de situations désagréables.
Oui.
C'est donc une sorte de protection, un bouclier artificiel. Hein.
Oui.
Je le redis encore, c'est un moyen de nous protéger contre l'anxiété, un moyen irrationnel et qui va fausser, cacher et nier la réalité et empêcher le développement vers la maturité. Voilà, je ferme la parenthèse, là j'étais dans la définition encore plus précise de notre sujet de ce soir, Chantal. Alors la régression, donc, eh bien, c'est quelque chose qu'on va mettre en place, et en revenant à l'état initial d'avant notre traumatisme.
Oui.
On régresse, pourquoi? Bah, parce qu'on va en quelque sorte gommer ce qui s'est passé, et se projeter à la période d'avant.
Oui.
Et on va se replonger dans cette période, la revivre, et en rester là. Le problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir progresser.
Oui.
On est dans
on reste stagnant.
On est dans un ascenseur immobilisé, avant le choc.
Hein.
On se remet dans l'ascenseur avant que ce dernier ne tombe. Et on reste dans cet ascenseur immobile. Voilà. Alors,
c'est une forme de protection inconsciente.
Retour à un mode de fonctionnement plus archaïque, plus ancien, qui va consister en un comportement, des intérêts qui auront la tonalité, la coloration caractéristique d'un stade donné que l'on choisit soi-même.
Mm-hmm.
Voilà. Alors, cette régression, elle est possible du fait de fixations liées à ce stade.
Oui, puisqu'on sait bien on parle du stade de... différents stades
dans le développement,
la croissance de l'enfant, psychologique.
Hein, donc, stade narcissique, stade anal, etc.
Oui. Donc voilà, on reste fixé à un des stades.
C'est ça.
Et donc les comportements seront des comportements de ce stade.
Ben oui, bien sûr, il y aura un mélange entre l'adulte mature et l'enfant immature. Voilà. Alors ça, c'est un deuxième sorte de mécanisme de défense. Il y en a beaucoup, hein.
Oui, il y en a beaucoup.
On va énumérer les principaux. Alors, la dénégation.
Oui.
C'est-à-dire le désaveu qui économise le refoulement. Alors, c'est-à-dire, on se dit, en quelque sorte, il n'y a pas eu de problème, quoi. J'ai pas besoin d'en parler. Et on dit à l'entourage, ne croyez pas que j'ai eu ça ou que je pense ceci ou cela. On désavoue les choses.
Pour ne pas les exprimer.
Oui, pour ne pas les exprimer, pour ne pas les traiter, pour ne pas les voir en face. Hein. Alors ça appauvrit la personnalité qui est condamnée à ne pas reconnaître ce qui lui appartient. Notamment sur le plan affectif.
Ah oui.
Donc là, il y a blocage également. Et on rencontre des personnes comme cela, à qui on va dire, mais il me semble quand même que tu as tel problème, tu vois, tu ferais peut-être bien d'y réfléchir. Non, je ne l'ai pas ce problème-là. Absolument pas. Mmh. C'est toi qui l'as. Voilà. paf, en pleine figure.
Ça projette, il y a une projection à ce moment-là.
Ça peut être un suivi d'une, bien sûr, d'une, pardon, d'une projection. Voilà, c'est un moyen de, voilà, bah de se défendre qu'il voilà. y ait eu quoi que ce soit de traumatisant dans le passé.
Alors, autre moyen, mécanisme.
Oui, un autre mécanisme, c'est la sublimation. Alors, nous savons ce que c'est la sublimation. Par exemple, c'est le passage de l'état solide à l'état gazeux. Hein. Alors, une pulsion est sublimée en nous dans la mesure où elle est dérivée vers un nouveau but, où elle vise des objets socialement valorisés, artistiques, intellectuels, professionnels. Alors, par exemple, j'ai été rejeté et j'ai beaucoup souffert étant enfant. J'ai manqué de tout. Qu'est-ce que je choisis comme métier ? Ben, psychologue,
pour être...
ou je vais aller aider dans une association qui aide les plus démunis et les plus rejetés.
Ah oui.
On sublime.
Ah oui, oui, c'est ça, on sublime.
On transforme
un problème,
le traumatisme, le problème qu'on a eu en positif... En allant aider les autres qui ont eu ce problème.
C'est une façon de fuir son problème.
Oui, parce qu'on ne traite pas son problème. En quelque sorte, on se fait du bien, en réglant le problème de l'autre, on se fait du bien à soi-même, sans régler son problème. Et il y a beaucoup de psychologues, de psychanalystes, qui, d'ailleurs, les psychanalystes commencent par se faire psychanalyser, c'est pas pour rien.
Hein.
Donc, il y a certains qui sont rentrés dans ce métier à cause de gros traumatismes dans l'enfance. Hein. Les anciens alcooliques vont aider les alcooliques, vont sortir plusieurs, et ça va les aider à accepter leur traumatisme. Voilà. La sublimation, c'est bien connu. Enfin, il y a le déni de la réalité. Alors, voilà, tout simplement, ça s'est pas produit, j'ai rêvé. Il n'y a pas eu cet attentat à la bombe, dans le wagon d'à côté, voilà. Et on peut tomber sur des personnes qui ont subi des viols dans le passé et qui ne se souviennent plus de ce viol. Tellement, il y a un déni s'est installé.
Un refus de, pour se protéger.
Pour se protéger, on se dit non, allez, ça n'a pas eu lieu. C'est beaucoup plus facile. Ça n'a pas eu lieu. C'est bon. Allez, c'est rien. Il s'est rien passé.
Parce que pour régler, peut-être la situation, peut-être qu'on va revivre une souffrance, non ?
Alors justement, on fuit la souffrance.
Pour pas la revivre.
Et on rentre dans ce déni pour gommer là encore toute souffrance et donc l'événement initial, jusqu'à refouler ces choses-là dans l'inconscient et à ne plus se souvenir dans la zone consciente, ne plus se souvenir des événements qui ont eu lieu. Ça se produit chez certaines personnes qui ont été violées et qui réagissent devant certaines situations sexuelles de leur vie future par des blocages, et c'est relatif à un événement antécédent qu'elles ont refoulé, dont on ne connaît pas la nature, mais dont on sait très bien que peut-être c'est un viol.
Merci, Pasteur Philippe Osney. Donc ce soir, nous parlons de la guérison de nos mécanismes de défense. Pour rejoindre...
On en nommera d'autres, Chantal.
Oui, bien sûr. Pour nous rejoindre, 01 56 56 44 00. Nous écoutons tout de suite l'ensemble Gilles Binchois. Et c'est un Salva Nos Stella Maris, d'un anonyme.
Radio Notre-Dame.
C'était donc l'ensemble Gilles Benchois, ce Salvanos de la Marise anonyme, extrait donc de l'école de Notre-Dame de Paris. Ce soir, avec le pasteur Philippe Osney, nous parlons des mécanismes, de la guérison de nos mécanismes de défense. Alors, nous avons vu ce que sont ces mécanismes de défense. Vous nous avez cité quelques exemples, les principaux, ceux dont que l'on connaît, on a entendu parler. Bon, bien sûr, ça nous parle, refoulement, régression, dénégation, peut-être un peu moins, sublimation, oui, déni de la réalité. Donc nous vous invitons à nous rejoindre aussi, si ça vous parle, pour nous, en parler avec nous ce soir au 01 56 2 x 44 00. Et nous écoutons tout de suite Edmond qui appelle depuis Nantes, je pense. Bonsoir Edmond.
Bonsoir pasteur, bonsoir Chantal.
Bonsoir.
Bonsoir Edmond.
Je pense que j'ai un moyen de défense maintenant qui est apparu en vieillissant, parce que quand j'étais jeune, à chaque séparation, je pleurais.
À chaque séparation, oui.
En passant de chez une tante à chez une autre tante, comme j'ai pas perdu mes parents à 2 ans, et puis je sais pas comment on me l'a expliqué. Je me demande si ce don des larmes que j'avais étant jeune venait pas d'une défense.
Mmh. Ah oui, bien sûr. Oui, vous posez maintenant la question. Vous dites, oui, c'est peut-être ça, oui. Justement, c'est comme ça qu'on peut, ça peut venir à la conscience, oui.
Et donc, vous pleuriez par moment?
Souvent.
Souvent.
Et à cause de...
À tel point qu'on me faisait pleurer dans les réunions familiales, par exemple, on me disait « Monette, pleure !» Et je pleurais, et ça faisait rire tout le monde.
Oui, c'est quand même pas trop futé
de rire
de vous dire cela. Mmh. Mais vous, ça vous arrivait toute seule de pleurer sans savoir pourquoi, ou est-ce que vous saviez pourquoi ?
Sans savoir pourquoi.
Voilà, donc c'était certainement le chagrin refoulé
de
la perte de vos parents.
Bah oui, tout petite, oui, bien sûr. Sûrement.
Oui, c'était ça. Hein. Oui, c'est un bon exemple de mécanisme de défense. Mais par contre, qui devait quand même vous aider, à part les moqueries ou les personnes de votre famille qui en profitaient, en jouant un petit peu avec vous. Mais sinon, il y avait un effet positif sur vous.
Ça a sûrement eu un effet positif, parce que c'était un moyen de défense.
Oui, et ça libérait en vous des émotions.
Oui.
Et de la douleur.
Oui.
C'était comme un cri au secours, mais que vous pouviez extérioriser. Parce qu'il n'y a rien de pire que l'appel au secours qu'on n'arrive pas à extérioriser.
Mmh. Mais alors, mes frères jouaient sur ce point-là et ils me disaient « Monette, pleure !»
Oui, mais parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils pensaient que c'était...
ou un jeu.
Oui, pour vous, une manière de vous faire remarquer peut-être, ou autre chose.
Bah oui, ils ne comprenaient pas, c'est pour ça, oui.
Oui, ils ne comprenaient pas.
Bah oui.
Quand on est petit, on voit plein de choses, on ne comprend pas, donc on dit n'importe quoi par moment.
Oui, donc on peut faire du mal sans s'en rendre compte. Hein.
Et donc, je pense que, après, vous avez pu extérioriser toutes ces émotions de tristesse, de deuil. Et est-ce qu'à l'heure actuelle, ça vous prend encore de pleurer?
Non, justement. Et je le regrette. Parce que je me dis que je suis devenue insensible.
Alors, ce n'est pas forcément, Edmond, que vous êtes devenue insensible, mais peut-être que la source, elle est tarie, c'est-à-dire votre chagrin s'est extériorisé, le deuil a pu se faire, et vous êtes plus apaisé maintenant. C'est peut-être cela, vous voyez.
Oui.
C'est pas que vous êtes devenue insensible. Est-ce que vous observez dans votre vie une certaine dureté en général par rapport à tous les événements où...
C'est-à-dire que je trouve que je suis dure avec mon mari souvent.
Oui.
Je l'accuse d'être têtu.
Oui, mais ça c'est peut-être une autre blessure, c'est peut-être sur un autre registre cela. En tout cas, les pleurs que vous avez eus autrefois, j'en suis sûr, ont pu vous soulager.
Oui.
Et c'est pour ça que dans des séances de psychothérapie, si une personne
J'ai fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique et maintenant je vais en hôpital de jour.
D'accord.
Et donc je me trouve avec des personnes qui sont beaucoup plus atteintes que moi.
Oui.
Par exemple, dans le groupe, il y a une jeune femme qui ne serrera la main à personne.
Mmh. Oui.
Et c'est une jeune femme qui a perdu plusieurs maris.
Mmh. Donc, en quelque sorte, elle s'est blindée un petit peu. Elle est restée dans une tour, et on peut la comprendre, elle ne communique plus vers l'extérieur.
Oui, un peu.
Et ça, c'est aussi un mécanisme de défense.
Je trouve que dans ce groupe d'hôpital de jour, les malades entre eux s'aident davantage, j'ai l'impression que les infirmiers ne font rien.
Oui, c'est peut-être pas non plus leur rôle de pénétrer dans la vie intérieure des sujets.
C'est plus le médecin. Il y a des médecins aussi.
C'est-à-dire qu'il y a un médecin qui nous voit une fois par mois.
D'accord. Voir l'évolution un peu de ce que vous vivez.
Notre évolution du point de vue sentiment.
Oui. D'accord. En tout cas, l'essentiel, c'est que vous êtes suivi, Edmond. C'est que vous êtes entouré et oui. Que vous avez du personnel spécialisé là qui peut vous soigner et vous aider dans toutes vos souffrances.
Et
voilà.
Puis vous, entre vous, vous vous aidez mutuellement, vous aviez l'air de dire.
Je trouve que les autres malades nous aident davantage que les professionnels.
Oui, je comprends. Oui, je comprends apparemment, mais la garantie qu'un professionnel peut vous offrir, c'est son professionnalisme. C'est-à-dire, lui, il va cadrer les choses avec beaucoup plus d'exactitude que ce que les autres malades peuvent vous dire. Maintenant, les autres malades vous percutent peut-être davantage, vous, émotionnellement, parce que, justement, ils exposent leur vécu.
Oui, ils comprennent.
Ils comprennent. Oui. Ils comprennent, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont la solution comme les professionnels qui vous entourent. Donc, tout ça est bien complémentaire. En tout cas, merci beaucoup, Edmond, pour ce beau témoignage. Et nous souhaitons, Chantal et moi-même, que vous continuiez à vous laisser suivre, vous laisser porter par les autres, puisque vous en avez besoin.
Merci Edmond, à bientôt, bonsoir. Je crois que c'est Claudine qui est en ligne cette fois-ci. Claudine.
Et bonsoir.
Bonsoir Claudine.
Bonsoir. Oui, voilà, moi je suis blessée dans mon intériorité psychique par la violence. Et en particulier par celle qui m'a été faite il y a très longtemps par un homme qui, m'a violentée. Je reste blessée en vous écoutant, je m'en rends compte dans mon intériorité psychique parce que j'ai pardonné à cet homme, mais je suis toujours en relation obligatoire pour des raisons de famille avec lui, et cet homme me nargue et ne tient jamais il n'avait jamais commis cet acte très grave à mon égard, et ça, c'est pour moi, c'est odieux. J'ai envie de vraiment lui dire, mais tu as oublié ce que tu as fait il y a X années. Et je ne sais pas que faire parce que je vous dis que je lui ai pardonné, et en même temps, j'ai envie de lui dire, mais tu as oublié. Et alors, parce que j'ai l'impression que ça me soulagerait de lui dire, de lui redire ce qu'il a fait.
Ce qu'il a fait, oui.
Mais ça m'atteint dans mon intériorité.
Mais
de
oui.
toute façon, quand ça s'est passé il y a X années, ça a été très grave sur le plan psychique. Ça a déclenché vraiment des choses graves. Bon, j'ai été heureusement très bien soignée, mais je me rends compte qu'aujourd'hui, en vous écoutant, que je reste encore extrêmement sensible.
Oui.
Et donc, je me pose la question en même temps, je mélange un peu les choses, mais je ne les mélange pas vraiment moi-même, du pardon et de mon besoin d'être. Cette envie que j'ai de lui rappeler les faits.
Bien sûr. Alors le problème de tout cela, c'est que lui, cet homme, est certainement rentré dans le déni.
Voilà, c'est ce que je vais vous dire.
Pour fuir sa souffrance.
Il est rentré dans le déni.
Il est certainement rentré dans le déni, parce qu'il est plus facile d'oublier et de classer tout ça dans un,
voilà,
dans un tiroir ou de le mettre dans un coffre-fort et puis hop, allez, on le jette derrière
voilà,
nous.
Voilà, c'est le déni, je voulais vous dire.
C'est le déni, c'est-à-dire qu'il n'a pas réglé son problème, il croit l'avoir réglé. Alors, le déni provoque chez vous un sentiment d'injustice, parce que comme il ne reconnaît pas
voilà, exactement.
Les faits, et il ne se met pas en position de bourreau, j'allais dire, hein, puisque vous,
oui.
vous auriez besoin d'entendre qu'ils vous disent « Ah ouais, non, mais ce que je t'ai fait était horrible. Je reconnais que je t'ai cassé
je
ta vie. »
Je n'oublie pas, qu'ils disent au moins
oui.
« Je n'oublie
c'est
pas. »
C'est ça, c'est ça. Alors, vous auriez besoin qu'ils le reconnaissent et ils ne le reconnaissent pas. Alors, par contre, vous auriez besoin, certainement, d'en parler à un psychothérapeute ou à...
Mais j'en parle.
Vous en parlez. Alors voilà, l'essentiel...
J'en parle, mais ça reste quand même très sensible.
Bien sûr, bien sûr. Alors, à ce niveau-là, je pense pas qu'il vous faut pardonner cet homme, puisqu'on ne peut pardonner que quelqu'un qui demande pardon. Or, il ne demande pas pardon. Alors...
Au contraire, il me nargue.
Il vous nargue. Alors, par contre, ce que vous pouvez faire, c'est donner le dossier à Dieu... Hein, c'est-à-dire donner cet homme à Dieu en lui disant « occupe-t'en, parce que là, il me fait trop mal. Hein. » Donc là, vous voulez...
Excusez-moi, je vous arrête une seconde. Mais mon envie de lui dire « mais tu as oublié ça, vous pensez que ça ne sert à rien ?»
Ben si, c'est bien que vous lui rappelez. C'est bien que vous le
disiez.
Vous trouvez
que je peux lui rappeler ?
Mais bien sûr, bien sûr. Absolument. Et ça vous aide de le dire.
Oui, j'ai très envie, parce que pour moi, ce serait très important, mais je n'ose pas parce que comme je lui ai pardonné, je me dis que si je lui rappelle, à ce moment-là, le pardon...
C'est-à-dire, il ne faut pas non plus vous faire mal à vous-même en lui rappelant trop les événements, parce que ça a un effet boomerang sur vous, ça risque de réactiver des sentiments d'amertume et de haine. Alors, je pense ce qui est bon, c'est de le dire une fois pour toutes. Hein. Tu aurais besoin de revenir quand même à ce que tu as fait, parce que tu oublies ce que tu as fait. Et puis après, il faut confier les choses à Dieu, hein, et donner, transmettre à Dieu le fardeau, et ne pas vous fixer dessus. Hein. Ne pas vous fixer dessus, parce que si vous vous fixez tout le temps dessus, ça va vous travailler éternellement.
Non, pas du tout. Si vous voulez, je ne fais pas une fixation sur ce qui s'est passé.
D'accord,
mais
Claudine.
Cela dit, quand je suis obligée d'être en contact avec lui pour des raisons de famille et qu'il me nargue, c'est à ce moment-là où j'ai vraiment envie de dire, mais c'est un peu fort.
Oui, ben il n'a pas à vous narguer, hein, donc ne vous laissez pas faire.
Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir mis des mots comme le déni. C'est très important pour moi. Je vous remercie.
C'est nous
Merci
qui vous remercions.
Claudine.
Au revoir, Claudine.
Bonne route, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, je rappelle le téléphone pour nous rejoindre, 01 56 56 44 00. Donc ce soir, eh bien, avec le pasteur Philippe Osné, nous parlons donc de la guérison intérieure de nos mécanismes de défense. On se retrouve à 23h.
Oh.
Radio Notre-Dame.
Parole d'évêque. Tous les jours, un évêque différent répond aux questions de la rédaction de Radio Notre-Dame à 10h03 et 20h28. Actualité, vie de l'Église, la vie du diocèse décryptée par un évêque d'Île-de-France. Parole d'évêque, c'est tous les jours à 10h03 et 20h28 sur Radio Notre-Dame.
Chaque semaine, du lundi au vendredi, Christine Pellistrandi nous éclaire sur le sens des mots. Le sens des mots avec Christine Pellistrandi, c'est du lundi au vendredi à 6h33 sur Radio Notre-Dame.
Chaque matin, avant le travail, prenez votre dose quotidienne d'amour et de vérité. L'évangile du jour, dit avec profondeur et commenté avec ferveur, c'est chaque matin à 6h26, 7h26 et 8h26.
Dans la nuit, il est 23h.
Radio Notre-Dame.
Ce soir, eh bien, avec le pasteur Philippe Osney, nous parlons de la guérison intérieure de nos mécanismes de défense. Alors, le pasteur Philippe Osney nous a déjà défini un peu ce que le mécanisme de défense. Il y en a de bons, ceux-là, bon, voilà. Mais les mauvais, hein, c'est ceux-là qui nous intéressent aussi. Bien sûr, il faut faire la différence. Mais souvent, c'est ceux-là qui empoisonnent la vie.
C'est ça.
Et donc, il nous a donné quelques exemples aussi de divers mécanismes de défense et à quoi ils correspondaient. Et puis, on poursuivra peut-être après un peu. Mais on va écouter tout de suite Hélène qui est en ligne. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Chantal, bonsoir Monsieur le Pasteur.
Bonsoir Hélène.
Voilà, après ces témoignages bouleversants d'Edmond et de Claudine, je voudrais apporter une note d'espoir en disant qu'il est possible de sortir de ces mécanismes de défense et d'accéder à une autre vie. Voilà, moi, à cause de ma petite enfance, où j'ai été élevée juste par ma mère, parce que mes parents ont divorcé quand j'étais toute petite, et de 6 mois à 4 ans, j'ai été élevée par mes grands-parents maternels, J'ai subi un tel traumatisme que je me suis dit, je n'aimerai plus jamais. Je ne veux plus aimer, c'est trop douloureux. Je veux plus m'engager, voilà, je n'aimerai plus. Et j'ai beaucoup aimé l'image de la tortue que vous avez donnée en début d'émission, parce que j'étais vraiment dans ma carapace, enfermée là-dedans, et j'étais incapable de m'ouvrir aux autres. Et après 30 ans d'une longue et douloureuse thérapie, progressivement, j'ai pu m'ouvrir sur l'extérieur, j'ai pu m'ouvrir aux autres, j'ai pu réapprendre à aimer, j'ai rencontré mon mari, j'ai des relations amicales, j'arrive à m'ouvrir et à accéder. On peut, je crois que, mais ça demande, c'est lent. Et l'image de la tortue est une belle image, parce que la tortue, c'est un animal qui est lent aussi, et il faut du temps, de la patience, mais on peut arriver à sortir de ces blocages, de ces mécanismes de défense. Voilà, c'est le témoignage que je voulais apporter.
C'est magnifique, oui.
C'est très parlant, hein. En tout cas, c'est très beau que vous ayez réussi dans le temps à vous ouvrir. C'est pas facile, vous avez raison de le dire ici. C'est par paliers que ça se produit. C'est comme une remontée d'un plongeur qui est descendu très très bas. Eh bien, il doit observer
des paliers.
Des paliers de décompression. Et c'est ainsi dans notre vie. Il ne faut pas nous en vouloir. Vous avez eu raison de parler de cela, Hélène. Nous ne devons pas nous en vouloir si les choses vont lentement lors de notre remontée. Ça, c'est important. Mmh. On est au siècle du va-vite, du prêt-à-porter, du tout-fait. Et on veut tout de suite maintenant. sinon on se révolte. Or, il y a des choses qui prennent beaucoup de temps, tellement le traumatisme a été violent, ça prend du temps. La guérison d'un cancer, ça prend du temps. Il y a plusieurs sortes de chimiothérapie, il y a des paliers d'attente, il y a des traitements qui ont des conséquences, d'ailleurs, sur d'autres parties du corps. Et dans une remontée comme la vôtre, ça n'a pas dû être facile.
Non,
c'était très très dur. Et signalons encore, grâce à vous Hélène, que ça prend du temps, la guérison de certains mécanismes de défense. Et ce n'est pas rien quand on dit, et vous n'êtes pas la seule, hein, j'ai déjà rencontré des personnes qui ont eu votre traumatisme. Quand on se dit, je n'aimerais plus, hein, désormais je n'aimerais plus, on se coupe de l'essentiel finalement, puisque nous sommes faits pour l'amour.
Mais oui.
Dieu est
oui.
Amour, et Dieu qui nous a créés nous a fait pour l'amour également. Et quand on renie l'amour, on renie la vie. Et donc on se plonge dans une mort intérieure.
Oui.
Et c'est pour ça que ça a été difficile pour vous, parce qu'en refusant l'amour, vous avez refusé la vie, et vous êtes tombé dans une mort intérieure qui vous a causé beaucoup de dégâts. Et moi je rends gloire à Dieu que vous avez pu nous en parler bien, avec assurance, ça veut dire que vous êtes guéri.
Ah oui, je crois que c'est Edmond qui j'ai été en psychiatrie, je prends des médicaments, enfin je suis suivie. Hein, la guérison en matière de psychique, c'est un mot qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions. Mais disons que je peux vivre une vie relationnelle tout à fait épanouissante pour moi.
Oui. C'est formidable et ça va encourager beaucoup
Mais je comprends, oui.
nos amis auditeurs, auditrices. Alors, lorsque vous avez dit « je n'aimerais plus », lorsque vous l'avez pensé, du moins, l'amour c'est néfaste, je n'aimerais plus, vous avez fait ce qu'on appelle un vœu désespéré ou un vœu insensé. Et quand on fait ça, il y a un lien qui se fait dans notre vie. C'est comme si on jetait des cordes à l'intérieur
de
nous-mêmes et on ficelait quelque chose.
Inconsciemment,
pour plus que ça bouge. C'est-à-dire l'amour.
Oui, oui.
Eh bien, l'amour, je ne l'exprimerai plus jamais, je n'aimerai plus personne. Alors, on a besoin de beaucoup de temps ensuite, et puis d'un travail sur nous-mêmes, et que quelqu'un aussi, pourquoi pas, prie pour nous, pour briser cette espèce de vœu. Qui est une sorte de malédiction qu'on profère sur nous. Je n'aimerais plus. On se fait harakiri.
Oui, tout à fait.
Mais c'est compréhensible de faire
mais,
cela.
Moi, il se trouve que mes parents étaient athées tous les deux, que je me suis fait baptiser à l'âge de 24 ans et que, heureusement, j'ai rencontré le Seigneur dans ma vie. C'est lui qui m'a parlé d'amour, c'est lui qui m'a guidée vers l'amour, c'est lui qui m'a orientée vers là. Ça m'a énormément aidée dans mon chemin vers les autres aussi. Hein.
Mais oui, et rappelons encore que Dieu est amour et il est donc le créateur de l'amour. Hein. Et c'est vrai qu'en rencontrant Dieu, vous avez rencontré un amour qui vous a pacifié, détendu, qui vous a permis de reprendre confiance en l'amour, puisque Dieu n'est pas contrôlant, il n'a pas un amour qui nous désagrège, qui nous déstructure.
Au contraire.
C'est pas un amour.
Au contraire.
C'est pas un amour intrusif. Hein, c'est un amour qui nous laisse libre.
Oui.
Et ça libère, tandis que la manipulation, c'est l'inverse de l'amour. Quand on se sent manipulé par une personne qui nous aime, c'est que c'est pas de l'amour qu'elle
a.
C'est de la manipulation. Elle est égoïste. Et c'est vrai que quand on reçoit l'amour de Dieu ensuite, on se dit, oh là 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 là, que c'est bon. Et on s'y plonge. Et après, ça nous permet de nous ouvrir à l'amour des autres.
Oui, et puis Dieu s'engage tellement dans sa relation avec moi que ça donne envie de s'engager par rapport à lui, par rapport aux autres, ça donne envie de vivre.
Le
Dieu de la vie, c'est le Dieu des vivants.
C'est magnifique,
oui. Oui, c'est vrai, en conséquence, vous vous tournez vers les autres ensuite.
Voilà, la vie circule.
La vie
reprend ses droits, la vraie vie, parce que on peut avoir des relations, bonjour, bonsoir, des relations comme ça,
oui,
et la vraie vie qui et de s'engager dans une vraie relation, ça, je ne me l'autorisais pas avant.
Ah oui.
Et
oui,
c'est vrai, je vous comprends. En tout cas, rappelons comme Dieu a vécu des traumatismes similaires lorsqu'Adam et Ève se sont séparés de lui. Il a eu un traumatisme effroyable. Lorsque Jésus a été cloué sur la croix, sans secours de ses disciples ou de qui que ce soit, des sacrificateurs, il a subi un traumatisme effroyable. Et leur réaction est magnifique. Ils ne commettent pas de vœux insensés. Il y a Jésus sur la croix qui dit « Père, entre tes mains je remets mon esprit ». Donc il demande à Dieu, son Père, de lui faire justice. Et puis, Dieu le Père, au moment où Adam et Ève sont partis, l'ont trahi et ont désiré vivre sans lui, eh bien, c'est lui qui est sorti du jardin d'Éden pour aller leur faire des vêtements de peau. Et il a voulu recréer le lien sans cesse. Ah, et c'est cela qui l'a protégé du non-amour. Hein. Ah. Il a décidé d'aimer au-delà de toute mesure.
Oui.
Et c'est ce qui peut nous protéger.
Je crois que quand on est petit, on ne peut pas...
Non, bien sûr.
Non.
Quand on est enfant, on réagit comme on peut.
Hein. Ah bien sûr.
Absolument.
C'est l'adulte après qui peut.
Là, je parlais de l'idéal qu'on a en Dieu et en Jésus-Christ, mais bien souvent, on ne peut pas l'atteindre. Et il y a de tels degrés de souffrance dans certaines maladies que c'est vrai, on ne peut que se refermer. Et on a besoin de l'aide de Dieu ensuite pour qu'il nous réapprenne à nous ouvrir.
Voilà.
Merci beaucoup.
Enfin, je voulais témoigner parce que
c'est bien.
Quand j'étais la première fois que je me suis retrouvée en psychiatrie, le psychiatre a dit à ma mère, de toute façon, votre fille, elle est irrécupérable, elle est schizophrène, il faut faire le deuil de votre fille. Donc voilà. Et je voulais témoigner que même si on catalogue votre fils ou votre fille de schizophrène, c'est pas pour autant qu'il peut pas faire un chemin et avoir une vie tout à fait agréable, tout à fait épanouissante, tout à fait voilà.
Eh bien, écoutez, merci, c'est parce que c'est important.
Merci, Hélène, de nous l'avoir rappelé. À Dieu, rien n'est impossible.
Exactement.
Et le pire n'est jamais le pire du pire. Il y a toujours un petit coin de ciel bleu quelque part. Et cela, il faut le croire.
Oui. Ça, j'y crois vraiment.
Ben oui, mais on le sent, et c'est pour ça que vous avez donné ce résultat et ce témoignage ce soir. Merci.
Merci beaucoup, Hélène, pour votre témoignage.
Bonsoir, Hélène.
Bonsoir.
Ben voilà, c'est plein de... d'espérance pour beaucoup, ça, ce témoignage d'Hélène, pasteur Philippe Osney. Alors, peut-être on peut, avant de... Alors, je voudrais dire à Marie-Thérèse, si vous pouvez nous rappeler, parce qu'on a mal noté votre téléphone, alors ça va vous permettre de vous retrouver, Marie-Thérèse. On peut poursuivre un peu, pasteur Philippe Osney,
l'énumération des
mécanismes de défense. Alors, on avait parlé du refoulement, de la régression, de la dénégation ou des aveux, la sublimation, le déni de la réalité. Il y en a d'autres aussi.
Oui, par exemple la répression suivie du légalisme. On censure les choses en nous.
Ah oui, en nous.
En soi. On les censure, on les réprime. On devient sévère contre soi-même. J'ai pas le droit d'avoir des émotions comme ça. J'ai pas le droit d'être comme ça.
Mm-hmm. Répression, oui.
Par exemple, quand c'est Hélène, je crois, quand elle a dit... Je me trompe de prénom.
Claudine ou bien Edmond?
Non. Enfin bon, la personne qui vient juste... Oui, c'est Hélène. Je m'étais pas trompé de prénom.
Oui.
Lorsqu'elle a dit je n'aimerai plus, je me ferme à l'amour, elle a réprimé l'amour. En elle.
Ah oui, c'est ça, c'est la répression.
La répression, alors on devient un petit soldat envers soi-même, et puis on s'interdit désormais de manifester quoi que ce soit.
Hein. Ah oui, c'est ça, donc on devient...
On met des lois à l'intérieur de nous-mêmes, et on devient dur envers l'entourage parce qu'on applique les mêmes lois aux autres.
Aux autres, qu'à soi-même, donc légalisme.
Voilà, alors il y a aussi le phénomène du déplacement.
Oui, alors qu'est-ce que le déplacement?
Ou du transfert.
Ou transfert, c'est pareil.
C'est un mécanisme qui dirige... Les émotions négatives qu'on a éprouvées au moment d'un traumatisme vers un objet ou une personne jugée inacceptable et dangereux, vers un autre objet ou une autre personne considérée comme neutre et acceptable. Alors c'est un transfert.
Alors c'est-à-dire que donc on transfère sur une personne ou un objet qu'on juge inacceptable, dangereux, vers un autre objet, c'est ça ?
Voilà. oui, 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 tout à fait. Donc, voilà. Donc, en tout cas, on ne traite pas réellement les choses.
Oui, on déplace. Il y a un déplacement, un transfert.
Il y a un déplacement, un transfert. Mmh. Et c'est pas comme ça qu'on règle un problème. Alors, il y a aussi un mécanisme de défense qui consiste à rentrer dans la fixation mentale.
Ah oui. Hein? Alors, c'est-à-dire.
On se fixe sur l'événement initial et on ne regarde plus que lui. On vit constamment donc dans la douleur, dans l'anxiété. Une anxiété excessive.
Oui.
Et il y a donc un arrêt dans notre développement. Parce que cette anxiété va se propager partout, nous, dans toute notre vie intérieure. Mm-hmm. Et on devient notre problème, finalement.
Ah oui.
On se fixe sur le problème au point qu'on devient.
On devient le problème.
On devient le problème. Donc un souffre-douleur, certainement. Une victime. Et on ne voit plus la vie qu'au travers de ce problème sur lequel on s'est fixé. Alors, rappelons que nous ne sommes pas comme notre problème. Nous sommes plus grands que notre problème. Donc, quand nous nous fixons sur lui, nous allons donc stopper notre développement. Alors, un autre phénomène, c'est celui du détachement.
Oui.
On se détache du problème initial.
Oui.
J'allais dire, voilà, bof, c'est l'indifférence.
Oui.
Ouais, ça a eu lieu. Et alors ?
Ah oui, d'accord. Oui, c'est cette indifférence.
C'est pas un problème.
Oui, c'est pas le détachement pour le donner à Dieu. On s'en détache pour c'est autre chose.
Oui.
Là, c'est.
Oui, un détachement qui consiste à. Alors évidemment, c'est également une forme de déni. Hein.
Oui.
On s'en détache. Après tout, c'est pas grave.
Oui, d'accord.
Bon, voilà. Affaire à suivre, mais bon.
Oui, c'est voilà. On se protège comme ça.
D'ailleurs, il y a des personnes qui nous disent, mais j'ai été abusé sexuellement dans l'enfance, mais c'est rien. Puis j'ai pardonné à mon agresseur. Ah oui. Et oui, mais n'empêche que si on n'est pas revenu sur ces événements et si on n'a pas traité, ça va faire des gros ravages. Et on le voit lorsque ces personnes se marient, elles sont incapables d'avoir une sexualité épanouis avec leur conjoint. Mmh. Alors, un autre mécanisme de défense, c'est la fuite.
Oui.
On met à distance.
Ah oui, voilà.
Là, on était indifférent. Dans ce cas-là, la fuite, on met à distance.
C'est deux choses différentes,
La plus longue distance possible.
Oui, c'est ça.
Donc, par exemple, j'ai été abusé par des personnes violentes, mais je m'éloigne de toute personne violente désormais. Je mets à distance le problème. Je l'aurais plus. Il a eu lieu, mais je l'aurais plus parce que je m'éloigne donc de ces choses-là.
Oui, donc c'est une fuite.
C'est une fuite.
On ne traite pas le problème.
Oui, alors je reviendrai sur le clivage du moi. Il y a aussi l'hostilité et la froideur. On devient psychorigide. On a tellement eu mal qu'on se referme comme la tortue, là. Froideur, la tortue, elle ne bouge plus.
Elle n'a plus envie, oui, c'est ça.
Il n'y a plus rien. Oui. Hein, on ferait toc-toc sur la carapace, il n'y aurait pas de réponse. Mm. Hein. Donc, on devient froid. Froid et donc injuste, cruel. Et on peut en venir parfois même à faire souffrir les autres pour se venger inconsciemment de la douleur qu'on a éprouvée.
Oui.
La moquerie, les tentatives de division.
Oui.
Hein, on se moque des autres. Dans un groupe, on le divise, c'est une manière d'exister. Et c'est une manière de planquer son vrai problème. Son vrai problème, c'est quoi ? C'est la douleur affreuse qu'on sent en nous. Mmh. Et le fait de faire souffrir les autres, de diviser le groupe, ça nous aide à exister là encore.
Mmh.
Hein ? On existe parce qu'on voit le résultat de ce qu'on produit.
Mais
ça aide à s'accepter. Mais ce sont des mauvais moyens. On ne fait que blesser les autres par ce moyen-là.
C'est du négatif.
Il y a des personnes qui sont des spécialistes de la division, qui repèrent les failles et qui lancent des flèches.
On dit diviser pour régner.
Diviser pour régner, c'est ça. La séduction également, sous toutes ses formes, peut être un mécanisme de défense.
Mmh.
Voilà. Je ne me sens pas aimé. J'ai peur de ne pas être aimé. Je vais séduire de manière à recevoir de l'amour.
Ah oui.
Voilà.
Ah oui, c'est
mécanisme de défense. Mmh. Et les personnes les plus séduisantes, je ne parle pas seulement de beauté physique, mais de la séduction intérieure, sont parfois des personnes qui cachent les pires problèmes et qui s'en sortent en mettant dans leur poche, finalement, les gens autour d'eux, qu'elles séduisent, et donc ça leur fait du bien, ça redonne de l'énergie au moi intérieur, le sentiment d'être important, mais c'est pas la bonne solution. Enfin, pour terminer, tout cela peut aboutir vers le clivage du moi. J'ai prononcé ces quelques mots tout à l'heure, Chantal.
Oui. Alors, c'est quoi le clivage?
Alors, le clivage de soi, le clivage du moi, il y a donc comme un dédoublement, et le mot schizophrénie a été utilisé tout à l'heure. Alors, le dédoublement, la fragmentation, moi j'aime bien ce terme de fragmentation. On fragmente un disque dur, c'est-à-dire qu'on le divise en plusieurs partitions, de manière à isoler certains renseignements, certains fonctionnements. Donc, ce clivage se produit, ce dédoublement se produit lorsqu'il y a une partie en nous qui a beaucoup souffert. Alors, en quelque sorte, on va la séparer de notre nature réelle pour vivre dans une autre peau.
Et on porte un masque, alors?
On porte un masque sur cette partie qui a beaucoup souffert, donc il y a une carapace qui est posée, et on développe une autre personnalité, peut-être en partant également d'éléments réels. Alors, voilà, il y a le pire et le meilleur. Je crois que dans, on utilise certains termes, Mr. Hyde et Mr. Jekyll. Oui, c'est ça. Oui. Alors, en chacun de nous, il y a de toute manière le bien et le mal. Mais chez certaines personnes, il y a carrément deux identités qui en viennent à être séparées. Et vous avez le jour, par exemple, eh bien, la belle personnalité qui se développe, la belle identité, on est le sauveur des autres, on fait du bien. Et la nuit, on devient pervers. Voilà. Et on développe tout un tas d'habitudes,
dédoublement,
de péchés et de dépendances. Alors ça peut se produire lorsqu'il y a eu beaucoup de souffrances, non résolu, non répondu, des attentes non répondues.
Il y a une double personnalité.
Double personnalité, et on le fait pour se protéger.
Ah oui.
Pour se protéger. Voilà, on isole, c'est comme dans le Titanic.
Ah oui.
Comment, il y avait donc plusieurs cloisonnements à l'intérieur de la coque. Au cas où l'eau rentrerait dans une cloison, on rendrait cette cavité étanche
voilà.
De manière que l'eau ne rentre pas partout dans le bateau.
Un grand merci, pasteur Philippe Osnay, surtout pour vos exemples aussi qui nous aident. On parle de la guérison intérieure des mécanismes, nos mécanismes de défense, et on se retrouve dans quelques instants.
En el nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo.
Amén.
La pace sia con voi.
Et con il tuo spirito.
Pour ne rien perdre de la saveur et de la profondeur des interventions du pape, chaque mercredi à 15h, retrouvez l'essentiel de l'audience du pape sur la place Saint-Pierre.
En marche vers dimanche.
Bonjour, c'est Marie-Noël Tabu. Je vous propose de lire ensemble chaque semaine les textes de la liturgie du dimanche. Plus je les lis, plus je suis émerveillée par cette parole de Dieu. Vous connaissez la phrase de La Fontaine ? Labourez, prenez de la peine. Un trésor est caché dedans.
En marche vers dimanche, avec Marie-Noël Tabu, du mardi au vendredi à 11h03, sur Radio Notre-Dame.
VIP.
Chaque semaine, dans VIP, l'invité d'Emmanuel Dancourt vous dévoile le visage inattendu de sa personnalité.
VIP tous les lundis à 18h15, une émission produite par Kateo et présentée par Emmanuel Dancourt.
Chant. Musique et liturgie. Tous les dimanches à 7h, une émission proposée par Charles-Éric Auguel.
Bonjour, c'est Sophie de l'équipe du téléphone du dimanche. Quelles que soient les raisons qui y mènent, la prison est toujours une coupure d'avec ce qu'on aime. Tous les dimanches, depuis plus de 25 ans, Radio Notre-Dame accompagne les personnes détenues en permettant à leurs familles et à leurs proches de leur transmettre un message par la radio. Vous aussi, participez au téléphone du dimanche pour soutenir un de vos proches détenus. Vous lui offrez, par votre voix, les encouragements et l'espérance qui lui ouvrent un avenir. Votre message est un lien vital et précieux. Le téléphone du dimanche, une voix de l'extérieur pour ceux qui sont à l'intérieur. Retrouvez-nous chaque dimanche de 17h à 18h.
Radio Notre-Dame.
Donc ce soir, avec le pasteur Philippe Osné, nous parlons de la guérison intérieure de nos mécanismes de défense. Et pour nous rejoindre, le téléphone 01 56 56 44 00. Nous avons en ligne Jacqueline tout de suite.
Oui.
Oui, bonsoir Jacqueline.
Oui, bonsoir Chantal.
Bonsoir.
Bonsoir Père Osné.
Pasteur Philippe Osné, oui.
Oui, bonsoir. J'ai du mal à prononcer chaque fois. Eh bien, moi, quand je vous appelle ce soir, parce que, bon, quand il passe, Père Osné,
le pasteur Philippe Osné.
Osné, d'accord.
Osné, oui.
Quand, oui, d'accord, merci. Chaque fois quand il passe, vraiment, tout le monde se voit dans son passage, quoi. Tout un chacun, tout auditeur se voit dans son passage. Parce que, bon, moi, j'ai vécu, j'ai vécu des choses terribles, dures, que je n'ose pas expliquer à l'antenne. Donc, ça fait que, vraiment, à un moment donné, bon, je supporte pas le public. Quand il y a trop de monde, je suis mal à l'aise.
Oui.
Je suis mal à l'aise. Ou soit je rentre dans ma carapace de tortue tout à l'heure.
Oui, c'était l'exemple. Ça vous a parlé aussi, la carapace.
Oui. Donc, je rentre dans la carapace de tortue et je deviens une personne différente. Ou alors, j'extériorise et puis j'ai du mal à m'arrêter.
C'est ça,
donc,
d'accord.
Donc, voilà quoi. J'ai du mal à trouver juste le juste milieu.
C'est cela.
Les deux extrêmes, quelque part.
Exactement.
Et donc, vous, en écoutant l'émission, vous vous dites que ça doit venir d'un mécanisme de défense que j'ai mis en place et dont je ne vois pas...
Oui, parce que bon, tout ce que j'ai vécu, bon, j'ai été humiliée, tout et tout. Bon, voilà, comme j'ai prié beaucoup, je suis une personne qui prie beaucoup, je mets tout dans les mains du Seigneur, comme il a dit, je remets tout dans les mains du Seigneur. Donc, comment dirais-je, je prie beaucoup et puis bon, pour me protéger aussi en quelque sorte. Parce que les gens, chaque fois, vous demandent par curiosité, comme ça, et puis ça me blesse. Bon, je préfère avoir une allure sévère, comme ça,
vous les tenez à distance.
Ouais, à distance, la fuite, en quelque sorte.
Oui.
Donc, quand je fais ça aussi, je vois aussi que... ça marche aussi, quoi.
Ça marche, bon.
Oui, ça marche mieux, mais quand je rentre dans leur jeu, j'extériorise comme ça, là, non, là, ça marche pas du tout.
Ah oui.
Ouais, ça devient tout autre chose.
Ah. Et avez-vous découvert vraiment la raison qui fait que vous êtes mal à l'aise dans un groupe?
Ben, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre.
Faites-en peut-être un sujet de prière en demandant au Seigneur. D'ailleurs, on prendra, Chantal,
oui, un temps de prière tout à l'heure.
Un temps de prière tout à l'heure pour ceux et celles qui ont besoin de guérison intérieure. Restez, si vous êtes dans ce cas, on va prier pour vous. Donc oui, vous pouvez demander au Seigneur de révéler en vous ce qui s'est passé réellement. Et il le fera. Ça va remonter. Des souvenirs vont remonter. Et quand on a pris connaissance des raisons qui nous ont poussé à nous refermer sur nous-mêmes et à ne plus communiquer avec le groupe, eh bien, on peut traiter notre problème, pas avant. Hein? Donc, je vous encourage à le faire. Alors, c'est formidable, vous avez parlé en quelque sorte de la prière aussi comme un mécanisme de défense.
Ah oui, ça.
Alors, c'est la vérité. Alors, maintenant, on peut très bien aussi, et je ne veux blesser personne, fuir dans la prière au lieu de régler son problème. Mmh. Je ne parle pas du zèle que certaines personnes ont parmi nous à prier tous les jours, à prier pour les autres. Elles ne sont pas concernées. Je parle de personnes qui, se sentant rejetées, se sentant incomprises tout le temps, eh bien, vont aller à la chapelle ou vont avoir comme réflexe de s'isoler et de se jeter aux pieds du Seigneur, mais tout le temps pour la même raison. Alors, il n'y a pas solutionnement du problème, il y a apaisement par la prière. Bon, je dirais que c'est peut-être le mécanisme de défense le moins nocif quand même. Hein. Mais veillons, si nous faisons comme cela, à regarder en face un jour notre problème, parce qu'on peut fuir dans des choses spirituelles aussi, qui deviennent des mécanismes de défense. La parole de Dieu peut devenir un paravent, une carapace. Derrière laquelle nous cachons quoi? Nos fragilités, notre méconnaissance de nous-mêmes, etc., nos échecs. Mmh. Alors, c'est à nous d'analyser le pourquoi des choses, pourquoi nous prions tellement, pourquoi nous nous réfugions dans la parole. Est-ce que c'est à cause de complexes, à cause de mécanismes, à cause de traumatismes passés uniquement, dont nous ne trouvons jamais la solution, ou bien est-ce simplement avec le cœur, parce que nous aimons le Seigneur?
Alors, il faut demander au Seigneur, dans ces cas-là, de nous révéler, justement, dans la prière, justement, où est notre difficulté, le blocage.
Oui, oui.
Le
problème. Et c'est vrai qu'une personne...
La lumière, quoi. Qui... Demander sa lumière.
Oui, et c'est vrai, Chantal, qu'une personne a eu un fort traumatisme dans l'enfance et qui solutionne ensuite son traumatisme, enfin du moins qui solutionne, qui guérit des conséquences de son traumatisme. Si cette personne se plongeait exclusivement dans la prière à cause de son traumatisme et de sa non-guérison, après qu'elle soit guérie, elle peut très bien vivre l'inverse, c'est-à-dire une incapacité à prier désormais.
Ah oui,
parce que l'élan vers la prière était lié
à son problème.
Et tout à coup, voilà qu'elle est guérie et qu'elle prie moins et qu'elle n'a plus l'amour de la prière. Alors, ceci paraît normal. C'est là qu'il faut retravailler sa vie pour reprier d'autres motivations.
Hein? Non, mais Père, c'est pas pour vous couper la parole, mais je priais avant ce traumatisme-là.
Oui, vous priez
c'est
avant,
bien,
oui,
c'est bien.
Oui.
Mais non, voilà. Mais je ne parlais pas de vous spécialement, hein, Jacqueline. Je le disais au passage, pour ceux et celles qui auraient été à l'écoute et qui s'étonneraient dans leur vie qu'après un cheminement de guérison intérieure, ça soit le désert. Hein. Et le désert est un lieu d'approfondissement. Donc
c'est le moment de voir pourquoi, une autre étape.
De creuser pour retrouver ce goût de la prière ensuite et cette nécessité quotidienne d'aller vers Dieu, qui était liée avant à un gros problème qu'on avait, et une fois que le problème a disparu...
Oui. Mais là, on va vers lui pour lui, après. Bon,
mais c'est ça le but, Chantal,
bien sûr.
C'est d'aller vers lui pour
lui. C'est désintéressé.
Voilà, avant on allait vers lui pour nous, maintenant on va vers lui pour lui.
Oui. Voilà, donc Jacqueline... Merci en tout cas de votre intervention et puis demander à être éclairé dans la prière.
Oui, je vous remercie. Bonne soirée à vous.
Bonne soirée à vous.
Merci. Bonsoir. Eh bien, nous pourrions peut-être prier maintenant.
J'y pensais, cher Chantal, on a eu la même intuition, les deux, au niveau du timing de cette émission. J'inviterai donc maintenant nos chers amis que nous aimons, auditeurs, auditrices, et pour qui nous travaillons à cette émission, je vous inviterai maintenant dans la simplicité, telle que vous êtes, à rentrer avec nous dans un petit temps d'intériorité, de prière, où nous n'allons pas nous mentir à nous-mêmes, au travers d'un déni, d'indifférence, ou c'est pas grave après tout. Il y en a qui disent ça, c'est pas grave, j'ai eu des troubles intimes, c'est pas grave. Attention, ça c'est une forme aussi de fuite.
Oui.
Hein? C'est grave quand on a eu de forts traumatismes. Donc, rentrons maintenant dans cet instant de
vérité.
De vérité, de communion avec Dieu. Et asseyez-vous si vous en avez besoin. Enfin, mettez-vous vraiment en position d'être totalement détendu, tranquille. Fermons nos yeux pour regarder le Seigneur qui est là, qui est présent dans cette émission, et son but, c'est de nous guérir maintenant. Alors maintenant, Seigneur Jésus, toi que j'aime de tout mon cœur, toi qui as changé ma vie et qui continue à le faire, je prie, et Chantal prie, nous prions tous ensemble pour ceux et celles parmi nos amis qui ont des traumatismes, des blocages qui ont été suivis par des mécanismes de défense nocifs qui les ont ensuite découragés, minés et partiellement détruits. Et j'aimerais prononcer cette parole prophétique à l'antenne. J'ordonne maintenant que cette partie de vous-même que vous avez tuée, ignorée, assassinée, mais j'ordonne qu'elle ressuscite maintenant. Et je veux lui dire maintenant, lève-toi. Ressuscite. C'est un ordre. Ressuscite maintenant par l'Esprit de Dieu. Toi qui t'étais renfermé, calfeutré, caché, enfoui, ressuscite maintenant par l'Esprit de Dieu. Je vous invite à ouvrir vos mains devant vous, comme dans le chant, les mains ouvertes devant toi, Seigneur, de, je crois que c'est Littleton, hein, John Littleton. Je vous invite à ouvrir vos mains en signe d'ouverture de votre cœur. Et laissez maintenant le Seigneur rentrer à l'intérieur de vous pour toucher là où les parties y sont mortes ou que vous avez fait mourir. Saint-Esprit, fais ton œuvre maintenant. Chez les milliers de personnes qui prient ensemble par le moyen de cette émission, qu'elles soient toutes transformées sans exception. Je prie pour des grands miracles dans la vie de ces personnes, là où elles se trouvent. Au nom de Jésus-Christ, soyez maintenant transformés. Et je vous invite pour terminer, pourquoi pas à demander pardon au Seigneur si vous avez renoncé à la vie, si votre mécanisme de défense a été la mort. La mort. Je vous invite à vous repentir et à dire, Seigneur, pardon, parce que je n'ai pas choisi la vie, je ne t'ai pas choisi. J'ai choisi la désespérance, le renfermement, la haine de moi-même, le déni, le mensonge. J'ai porté un masque. Que vos péchés maintenant soient pardonnés, et que vous puissiez recouvrer une liberté totale au nom de Jésus. Amen. Nous allons rester encore quelques secondes en écoutant juste cette délicieuse musique, cette harpe divine. Nous l'écoutons en restant en prière et en recevant maintenant de Dieu. Je le dis à ceux et celles qui sont le plus dans la difficulté, écoutez la fin de cette émission, puisque nous allons parler, à la fin de cette émission, comment faire pour guérir.
Voilà, merci pasteur Philippe Osné. Et puis je rappelle aussi le téléphone à nos auditeurs pour nous, s'ils veulent encore nous rejoindre pendant quelques minutes. Le 01 56 56 44 00, 01 56 56 44 00. Et donc, le thème, bien sûr, c'est la guérison intérieure de nos mécanismes de défense. Et dans la prière, je vous propose d'écouter les petits chanteurs de Saint-François de Versailles, de Giovanni Per Luigi da Palestrina, Alma Redemptoris Mater, les plus beaux morceaux, les plus beaux cœurs d'enfants dans ce CD.
Radio Notre-Dame.
Voilà, ce soir, donc, là, nous venons d'écouter les chanteurs de Saint-François de Versailles, Alma Redemptoris Mater de Palestrina. Et ce soir, nous parlons de la guérison intérieure de nos mécanismes de défense. Alors, peut-être que, justement, on pourrait parler de ces. Bah, de la guérison.
Oui,
de la guérison. Parce que là, on a évoqué hein, beaucoup des traumatismes.
La guérison est par palier.
Oui,
le premier palier, c'est déjà la découverte de son propre problème. On ne peut pas être guéri de quelque chose dont on ne croit pas être malade.
Donc ça, c'est le premier stade.
Ce sont quelquefois les autres qui pointent notre problème. Et c'est là où il nous faut de l'humilité.
Oui. C'est un service qui est rendu, mais il faut...
C'est ça, et nous isoler et dire, mais est-ce qu'ils n'auraient pas un petit peu raison quand même? Parce qu'on me le dit souvent, ça. Mm-hmm. C'est pas la première personne qui me dit ça. Donc, de l'humilité, et reconnaître son problème, quitte à demander au Seigneur, justement, de pointer le problème davantage.
Oui.
D'agir par sa puissance, pour qu'on le voit. Mm. Puisqu'on est quelquefois aveugle. Rappelons que l'apôtre...
Saul
de Tarse avait des écailles
qui
sont tombées des yeux. Il était aveuglé. Alors, ça c'est le premier point. Alors, reconnaître son problème après qu'il nous a été révélé. Et deuxièmement, rentrer dans un cheminement de guérison intérieure. En présentant d'une part ce problème au Seigneur, qui est tout puissant, on l'a vu pour le cas de Hélène, je crois que c'était
ça.
Et elle a dit, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, et suite à ça, j'ai commencé à aimer.
Oui.
Voilà, donc, réaccepter le Seigneur dans sa vie par rapport à ce problème, le nommer maître sur ce problème,
Seigneur. Tu
es Seigneur de ce problème.
Seigneur de ce problème.
Tu vas pouvoir le changer. Et puis après, on va passer par toute une série d'événements où le Seigneur va nous demander de revisiter l'événement antérieur. Il faut quelquefois le faire auprès d'une autre personne,
Expliquant
ce qu'on a vécu, en laissant sortir les émotions et en renonçant ensuite aux mécanismes de défense faux, nocifs, qu'on a adoptés. Mmh. Il y a donc une prière de repentance à faire. Pardon Seigneur, parce que je me suis mis à injurier tout le monde autour de moi. Et c'est comme ça que j'arrivais à vivre. Mmh. Et je veux faire des progrès dans ce sens. Mmh. Voilà. Alors on s'humilie, on demande pardon à Dieu, et là on va se mettre en chemin pour modifier les réactions vis-à-vis de ce traumatisme ancien. Mmh. On va changer les réactions. Alors, ne changeons rien sans mettre quelque chose à la place.
Oui, bien sûr. Oui.
Alors donc, on fait des progrès et parallèlement, on adopte une solution. Alors, la solution, par exemple, pour la personne qui ne voulait plus aimer, bah, ça a été de décider d'aimer un petit peu, puis un petit peu plus, et encore un petit peu plus. Voilà.
De s'ouvrir progressivement.
S'ouvrir progressivement.
Et aller vers les autres.
Dans tous les cas, il faudra s'ouvrir. Mmh. Hein. Et si notre traumatisme vient de rejet, de paroles malsaines qu'on a entendues prononcer sur nous, de malédictions qu'on a jetées sur nous, eh bien, il va nous falloir pardonner, renoncer à ces malédictions, si on y a cru. Mmh. Par exemple, je mourrai à 48 ans. Mais je mourrai à 48 ans comme mon père. Clac ! Ça y est.
Oui, on se détermine.
Voilà, on se détermine. Alors, il y a plein de choses comme ça pour lesquelles il nous faut passer du temps avec Dieu pour sortir de cet
emprisonnement.
On va le dévitaliser, Et là, eh bien, il faut avoir un autre regard sur le problème qu'on a eu que de faire la tortue, comme il s'était dit en début d'émission.
Là, au contraire.
On va garder les pattes dehors, la tête dehors. Alors, il y a plusieurs moyens, c'est demander de l'aide à un spécialiste, à un professionnel ou à un chrétien qui s'y connaît bien dans notre entourage. Utiliser la parole, je veux dire, il faut parler.
Mmh. Mettre des mots aussi.
Il faut que ça sorte, oui. Et que la personne qui constitue notre vis-à-vis mette des mots sur ce qu'on a dit, définisse les choses. Et il faut donc rectifier tout ce qui a été faussé. Mmh. Ça prend du temps. Et il faut réapprendre à vivre d'une autre manière. Et c'est là où ça prend le plus de temps.
Et du courage aussi.
Et alors, où c'est long, c'est que ça entraîne à nouveau, malheureusement, quelques souffrances. Le fait de ne plus fuir, le fait de voir la réalité en face, fait que les souffrances initiales du traumatisme reviennent.
Mmh. Mais pour être réglé.
Mais cette fois-ci, pour être déposé au pied de la croix. Voilà. Alors, j'en viens à la suite.
Oui.
Il faut, après s'être repenti, déposer la douleur au pied de la croix.
De la
Et rappelons qu'en Ésaïe 53, on voit que Jésus, le serviteur souffrant, justement, a été humilié. Il a souffert pour que nos souffrances soient enlevées.
Oui, il les a prises sur lui. Oui.
Il les a prises sur lui. C'est bien écrit. Alors, Seigneur, je te donne maintenant cette douleur effroyable que j'ai eue au moment où je me suis coupé les doigts. Par exemple, j'ai discuté l'autre jour avec quelqu'un qui était menuisier.
Ah,
et puis, excusez-moi pour les fragiles parmi nous, il a coupé une planche et puis il s'est coupé les doigts de la main avec. Et il a presque rien senti. Mais seulement, il a vu qu'il lui manquait ses doigts. Voilà. Et on n'a pas pu lui regreffer ses doigts parce que les doigts ont été déchiquetés d'une telle manière qu'il y a eu trop de chair qui a été perdue. Tandis que quand la coupure est nette, on peut ressouder. Là, mais c'était trop impossible. Le chirurgien a essayé pendant 2-3 heures. Il a dit non, malheureusement, vous perdez vos doigts. Mmh. Bon, alors j'imagine que cette personne, devant les machines à outils, devant plein de choses, elle a peur.
Mais ça se comprend.
Alors il y a tout un travail à refaire de
confiance,
apprendre à vivre. Enfin voilà. Mmh. Alors donc tout ça, ça doit se faire en se séparant de la douleur, bien sûr.
Oui, oui.
Donc donner les souvenirs douloureux au Seigneur, sans séparer. Rappelons,
sans séparer. C'est lui qui a tout pris.
Dieu ne veut pas que nous soyons un souffre-douleur.
Oui, il a tout pris sur lui.
Il a pris sur lui non seulement nos péchés, notre mort, en nous donnant la vie éternelle, mais aussi nos souffrances. Donc on va se séparer. Et si on fait une fixation sur les souffrances du passé, c'est pas étonnant qu'on reste enchaîné.
Bien sûr, hein, oui.
On va souffrir toute notre vie. Oui. Dieu ne veut pas ça. Alors Seigneur, je m'en sépare, tu les prends sur toi maintenant. Il a tout pris dans la figure, à notre place. Alors on lui met dessus, puisqu'il l'a fait, il l'a pris. Eh bien, on déplace la douleur sur lui à la croix de Golgotha. Et s'en suivra une libération qui va nous aider à faire d'autres progrès. Et ceci, il faudra le répéter autant de fois que possible pendant le processus de guérison. Oui. Alors là, c'est simple parce que c'est naturel. Tout à coup, on va peut-être pleurer, on va peut-être sentir qu'on est touché, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur.
Ça bouge, la vie reprend.
On se met à pleurer, on ne sait même pas pourquoi, c'est même pas nécessaire de savoir pourquoi.
Il faut laisser faire.
Et puis, il y a peut-être des repentances à nouveau à avoir. C'est par palier. Il y a des moments ça bouge, il y a des moments ça bouge pas. Il nous semble perdre notre temps. C'est là qu'il faut pas baisser les bras. Ces paliers sont nécessaires, des paliers de repos. On en a besoin. Surtout pas abandonner. Et puis, les mois se rajoutent, les années, et les petits plus forment les grands plus, les petites gouttes d'eau forment les grandes rivières.
Oui.
Alors, ne vous découragez pas, là je m'adresse aux auditeurs, aux auditrices, si vous voyez qu'il y a des haltes, des paliers.
C'est pour souffler.
Où tout semble à nouveau paralysé. Commencez pas à dire ça y est, c'est fini. Non, ça continuera. Allez jusqu'au bout. Et peut-être que dans 3 ans, 4 ans ou 6 mois, vous pourrez témoigner dans votre communauté chrétienne. Voilà, avant, j'étais timide, je frôlais les murs, je fuyais les groupes. Maintenant, regardez, je suis capable de venir vous témoigner au micro.
Voilà.
Etc.
Ben voilà, comme le fait maintenant Marie-Thérèse. Bonsoir Marie-Thérèse.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, on vous écoute.
Alors moi, j'ai eu pas mal de traumatismes aussi. J'ai été, disons, placé pendant des années sans mes parents.
Oui.
Oui.
Et puis par la suite, il y a eu des problèmes aussi dans le domaine, dans un tout autre domaine. Il y a eu le mariage forcé. Il y a eu beaucoup de choses traumatistes dans ma vie.
Oui.
Et je crois ne pas avoir pardonné à cette personne. Qui me souviens.
Qui vous a forcé?
Oui.
À vous marier?
Oui, on m'a forcé à me marier.
Oui, bah c'est difficile là.
Alors, si on ne sait pas trop ce que c'est le mariage forcé, on amène le cousin, etc. Et nous, moi, j'étais la victime, voilà.
Mais j'ai mal compris quand vous dites on amène le cousin. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Eh ben, on amène la personne qui est avec qui on va se marier.
Oui.
On vous l'amène, quoi.
Oui, on vous l'amène. Oui, c'est on ça l'amène, ce que vous voulez dire. Oui.
Et puis on vous demande rien.
On vous demande rien.
Et autrefois, il y avait des mariages forcés.
Voilà,
hein,
c'était des mariages forcés.
C'était les parents qui mariaient les enfants quelquefois.
Oui, voilà.
Donc c'était votre cas.
Ça a été mon cas.
Et c'était douloureux, évidemment, par la suite.
Et je ne m'aime pas. Hein. J'ai mis des barrages psychologiques à mon insu.
Ah oui, bien sûr.
Pour vous protéger. Je ne m'aime pas. Ça m'ouvre les yeux, cette émission. J'ai fait des tas de barrages. Ou sourire quand on n'a pas envie de sourire. Enfin, vous voyez, beaucoup de choses comme ça.
Oui.
Se mentir à soi-même, je crois, non?
Oui, bien sûr, le mensonge représente aussi un moyen de se protéger. Hein.
Ça peut pas être une sorte de déni aussi par rapport à moi-même, je crois.
Oui, il peut y avoir, là j'ai parlé des différents mécanismes de défense, il peut y avoir un mélange de plein de mécanismes, et selon la situation, on utilise tel ou tel comportement.
Oui.
Alors, ce qu'il faut, c'est commencer à faire un travail sur soi-même, si on veut être guéri. Et il n'y a pas d'âge pour être guéri. Hein. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Donc, il faut commencer par un tout petit peu, puis un tout petit peu, puis un tout petit peu. Et si vous n'arrivez pas à pardonner à cette personne qui vous a forcé à vous marier, je vous comprends, vous pouvez le dire au Seigneur, je n'arrive pas pour l'instant. Il va le respecter, lui. Hein, il va le respecter. Oui. Et puis passer à autre chose, voyez. Mais présenter au Seigneur successivement toutes les couches, toutes les sous-couches de votre vie où vous avez été traumatisé, oui, empêché, contrôlé, dominé, mm-hmm, avec violence, voyez. Mm-hmm. Hein, faut le présenter.
Et les coups que j'ai reçus.
Oui.
Ça aussi, j'ai pas beaucoup pardonné de ce côté-là.
Pardon, des coups. Oui.
Que j'ai reçus.
C'est ça. Mais alors, ne traitez pas les problèmes de votre vie maintenant en une fois. Il faut commencer par des petites choses. Donc, prenez un carnet.
Oui.
Et puis, d'une manière naturelle, ce qui vous vient à l'esprit va vous le noter. Et vous vous mettez à travailler ça.
Oui.
Hein, vous mettez la date. Et oui, vous travaillez le mieux que vous pouvez. Vous appelez aussi le Seigneur, oui, pour qu'il rentre dans cette situation. Et puis, ensuite, quand vous sentez que ça va peut-être un petit peu mieux, vous choisissez autre chose. Voyez,
oui.
Et petit à petit, vous allez donc rentrer dans une guérison intérieure, mais à petits pas. Si vous avez, si vous avez été très traumatisé, il faut donc, c'est comme un vase qui a été tellement fêlé.
Hein, pétiné,
mais oui, alors donc on l'emballe beaucoup plus, avec beaucoup plus d'attention qu'un autre vase, oui, vous voyez, s'il est fragile. Alors donc vous êtes fragile et allez-y par petite quantité.
Oui.
C'est comme un escalier que vous allez monter avec des petites marches.
Oui.
Hein, et vous continuez, et vous continuez à monter. Et un jour, il y aura oui, des grandes libérations. Soudaine.
Voilà.
Oui.
Voilà, Marie-Thérèse. On arrive à la fin de l'émission. Merci en tout cas. Voilà. Continuez à travailler.
Progrès quand même. Je vais vers les autres.
Voilà. Faut voir le côté
parce
positif.
C'est une association qu'on appelle le GEM, le groupe d'entraide mutuelle. Et je vais vers les autres.
Et donc
voilà.
En apportant mes ouvrages, ma peinture. Enfin,
Vous voyez. Donc.
Écrit.
Continuez à faire. Continuez dans ce sens. Et occupez-vous bien de vous-même également en parallèle. D'accord. On est obligé de couper. On vous embrasse, Marie-Thérèse.
Merci, Marie-Thérèse.
Au revoir.
Voilà, on arrive à la fin de l'émission. Merci.